Bonjour Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence, bonne année.
Bonne année Monseigneur. Alors en ce début d'année, nous allons parler des projets pour le diocèse de Nîmes et notamment le projet phare voulu aussi par le pape François, l'année jubilaire, le jubilé. Donc tous invités à Rome en cette année 2025. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est un jubilé ?
Écoutez, un jubilé, il y en a dans l'histoire de l'Église depuis l'an 1300. Donc ça veut dire que ça remonte. C'était une année de grâce qui était donnée à l'Église, à la fois de conversion et puis aussi de rémission des péchés. En fait, une année qui est toute spéciale pour retourner vers le Seigneur. Ça prend ses racines dans l'Écriture sainte, où il y avait des jubilés qui étaient proposés tous les 50 ans, mais... Ce qui est important, ça n'est pas le chiffre 50, c'est le chiffre 49. Parce que 49, c'est 7 fois 7. Et donc, toutes les 7 semaines d'année, donc une semaine d'année, ça fait 7 ans, et les 7 semaines d'année, ça fait 49 ans. D'accord. Donc, au bout de 7 semaines d'année, au bout de 49 ans, on prenait une année, la 50e donc, d'accord, pour fêter un jubilé. Pourquoi jubilé ? Parce qu'on annonçait, en sonnant une sorte de cor, qui était dans une corne, un yobel, on annonçait cette sorte de fête. Et l'idée, c'était d'abord de laisser reposer la terre. On laissait reposer la terre, enfin, ce qui était prévu dans l'Écriture. Pourquoi ? Pour montrer que la terre est à Dieu et qu'elle ne nous appartient pas. Et c'est comme si on rendait la terre à Dieu, ou en tout cas, on reprenait conscience que la terre, elle n'est pas d'abord aux hommes, elle est un don de Dieu. Et donc, on laissait la terre en jachère. Donc, il fallait faire des réserves un peu pour se nourrir pendant un an. On libérait aussi les esclaves. Il y avait des esclaves juifs, mais là, on les libérait. On remettait les dettes aussi. Mmh. Donc, c'était une sorte de... Comme une année, vous voyez, où on se purifiait de tout ce qu'on avait accumulé. On libérait les chaînes de nos frères et de nos sœurs pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis, pour nous remettre comme à neuf, vous voyez, dans nos relations les uns avec les autres, dans la relation aussi à la terre. Donc, c'était une année de libération.
Une année de libération, peut-être une année aussi un peu consacrée. C'est-à-dire, c'est un peu comme un dimanche qui dure toute une année ou un Shabbat qui dure toute une année.
Oui, on pourrait dire ça. Je crois que c'était un peu cette idée de se remettre devant le Seigneur. Et donc, nous, pendant l'année jubilaire, il faut qu'on ne fasse pas seulement des célébrations. Il faut que chacun s'interroge sur la manière dont il peut se libérer ou bien libérer les autres. Du joug qu'on peut faire peser sur lui. Alors, vous savez, c'est dans les relations humaines. On peut penser à des collègues de bureau, à des personnes autour de nous. Est-ce que parfois, il n'y a pas des manières de mettre la main sur l'autre, consciemment ou inconsciemment ? C'est aussi revisiter notre manière d'entrer en relation. Mmh. Ça peut être dans la famille aussi. Comment est-ce qu'on affranchit les autres des pouvoirs cachés, vous voyez, qu'on leur impose ? Bon, alors ça c'est à chacun de voir, évidemment, c'est à chacun de faire un peu son examen de conscience. Et puis alors on peut aussi se dire, est-ce que j'ai pas accumulé trop de choses ? Vous voyez, donc là, ça peut être aussi une manière de regarder son environnement, tout ce qu'on achète au fur et à mesure, surtout dans une société de consommation comme tout la nôtre, fait. Où finalement, on finit par acheter sans s'en rendre compte. Bon, sans avoir vraiment de besoin, mais on se dit, bon, pourquoi pas, bon, j'ai l'argent. Donc ça peut être aussi une manière de se dire, qu'est-ce que je fais de mes biens, de ce que le Seigneur m'a donné, comment est-ce que je pense aussi aux autres, ceux qui n'ont rien. Voilà, ce sont des réflexions autour de ce thème-là.
C'est finalement une année aussi un peu où on s'ouvre. Ça peut être aussi considéré comme une année de fraternité, de solidarité, où on va peut-être partager aussi, donner du temps aux autres, sortir un petit peu de ses habitudes.
Oui, retour à Dieu, retour aux autres. C'est toujours un mouvement qui est duel, si je puis dire, dans notre vie chrétienne. S'ouvrir à Dieu, c'est regarder notre prochain avec le regard de Dieu, justement. Mmh. Et donc faire attention à lui aussi.
Ça pourrait être une idée aussi pour les personnes qui ont 50 ans cette année, de profiter de cette occasion, quelque part. 50 ans, finalement, ça marque une étape de vie.
Oui. Alors, je précise qu'au début, c'était tous les 50 ans les jubilés dans l'Église. Et donc, on a repris cette idée de l'Ancien Testament, si je puis dire. Et puis, maintenant, c'est tous les 25 ans. Pourquoi ? Parce que, comme on n'est pas sûr que tout le monde arrive à 50 ans, l'Église s'est dit, on va le faire tous les 25 ans, donc un demi-jubilé, pour que tout le monde puisse au moins y aller une fois dans sa vie. Parce que même si on a plus de 50 ans, parfois on peut louper l'occasion. Mmh. Bah oui, parce qu'on a trop à faire. L'idée, c'est d'aller à Rome quand même, vous voyez ? Donc d'aller à Rome sur le tombeau des apôtres, Pierre et Paul, parce que dans le ressourcement, dans la foi, il y a aussi cette idée d'être ressourcé dans notre fraternité ecclésiale. et d'aller à Rome et puis de redire son credo. Là, dans ce centre, visible, concret, de l'unité catholique. Donc voilà, tous les 25 ans, c'est plus réaliste que tous les 50 ans.
C'est pour ça que le dernier, c'était en 2000, à Rome, et donc là, 2025, et ensuite 2050.
Voilà, sauf que parfois le pape s'autorise de faire des années jubilaires un peu spéciales. La dernière, c'était en 2015, pour le jubilé de la miséricorde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, et quel âge vous aviez à ce moment-là, mais en 1983, en 1983, le pape Jean-Paul II avait voulu une année jubilaire pour le 1950e anniversaire de la rédemption. Parce qu'on avait dit que si Jésus est mort en 1933, eh bien en 1983. Ah, oui. Bon, et ça ne vous a pas échappé que donc en 2033, il y aura aussi un jubilé, dont le pape a déjà parlé, 2033, jubilé de la rédemption.
Voilà. Ah, donc pour ceux qui ne pourraient pas aller cette année, en 2025, faire leur jubilé à Rome, ils auront la possibilité en 2033.
Oui, là, ça sera un événement incroyable aussi. Parce que,
mais oui. Voilà. Très bien. Alors, cette année 2025, le thème, c'est l'espérance. Pourquoi ce thème de l'espérance? Alors, c'est vrai qu'on va dire qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. Hein, notre société est quand même mise à mal. Et ce thème de l'espérance, je trouve qu'il arrive vraiment au bon moment. Pourquoi le pape a vraiment insisté sur ce thème-là? Comment il a été choisi, ce thème, également?
Alors, moi, je ne sais pas exactement comment est-ce que, ils en sont venus à choisir là, parce qu'on n'est pas forcément mis dans la confidence. En tout cas, le thème nous est donné, l'espérance ne déçoit pas. Je crois que, comme vous venez de le dire, on a beaucoup besoin d'espérance aujourd'hui. On voit des prix de guerre qui ressurgissent, y compris en Europe. Et puis, il y a aussi une certaine désillusion sur l'avenir de notre monde, l'avenir de nos démocraties. Et donc, je crois que c'est le rôle de l'Église de dire ne baissons pas les bras, l'espérance nous est donnée, et l'espérance nous est donnée en Jésus-Christ par sa résurrection d'entre les morts. Il y a un très beau passage de la lettre aux Hébreux qui nous présente l'espérance comme une encre, hein, c'est l'image. Donc nous, qu'est-ce que c'est que cette encre? En fait, cette encre, c'est le Christ qui est monté au ciel auprès de son Père, avec son humanité aussi. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et il est monté avec son humanité. Ça veut dire que notre humanité, elle a déjà un pied, si je puis dire, dans le ciel. Et c'est ça notre espérance, c'est que au fond, la vie éternelle nous est promise, la vie en plénitude, la vie avec le Seigneur nous est promise. C'est ça qui fonde toute espérance. Évidemment, vous voyez, le point de départ de l'espérance chrétienne, ça, ce ne sont pas des rêves, ce n'est pas la projection de nos désirs ou bien de vaines spéculations, ou bien une sorte d'optimisme bon marché, ou bien une confiance a priori dans le progrès ou dans l'évolution ou même dans la révolution. Notre espérance, c'est que le Christ est ressuscité des morts et que nous sommes appelés par le baptême parce que nous avons été plongés dans la mort, dans sa mort. Eh bien, par le baptême, nous sommes appelés à partager la résurrection et donc la vie de Dieu. Et ça, ça fonde au fond, malgré les épreuves, malgré les déconvenues de l'existence, malgré tout ce qui peut nous arriver, malgré aussi ce que notre monde est en train de devenir, eh bien, notre espérance est ferme et donc elle est comme une encre. Voilà.
Et puis, on pense aussi à la parousie, hein, le retour du Christ en gloire. C'est notre espérance aussi. C'est que le Christ reviendra au jugement dernier et reviendra un jour.
Voilà. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que la croix de Camargue, elle a la forme d'une encre.
Exact.
Et donc, on est dans le Gard, on est spécialement touché par cette image, hein, parce qu'elle représente la foi, l'espérance et la charité, qui sont les trois vertus théologales. Mais l'espérance est là, bien représentée, dans une terre, disons, au bord du littoral, dans notre espace méditerranéen. Eh bien, l'encre a quelque chose à nous dire de particulier.
Tout à fait. Le pape s'est exprimé aussi sur la bulle d'indiction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Ah oui, alors une bulle, c'est un vieux terme pour dire une lettre, en fait. Et donc, lorsque le pape a dit « on va faire un jubilé », on s'y attendait, hein, bon. Mais il fait une bulle. Alors, une bulle d'indiction, ça veut dire une lettre exprimant son désir d'ouvrir un jubilé et puis expliquant aussi ce qu'il propose d'y faire. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que il explique évidemment ce que c'est que l'espérance, mais il demande aussi à chacun de donner des signes d'espérance. Donc il dit, bah, pendant cette année, si nous avons cette espérance comme une encre, hein, dans nos vies, que le Christ est ressuscité, bien, donnons des signes d'espérance à notre monde, au moins l'Église peut faire ça. Mmh. Alors il fait d'ailleurs une liste, c'est assez intéressant et puis assez inattendu, il fait une liste des signes d'espérance qu'on pourrait donner, alors c'est pas exclusif, mais d'abord il dit la paix. Eh bien, travaillons à la paix, prions pour la paix, notre monde a besoin de paix. On sait combien la paix est fragile au Moyen-Orient, en Europe, dans d'autres zones de conflit que nous connaissons moins. Voilà, essayons de travailler à la paix pendant cette année.
Et déjà la paix pour soi-même, déjà d'être en paix pour soi-même et la répandre autour de nous.
Et oui, parce c'est que ça. Travailler à la paix, ça n'est pas seulement des activités diplomatiques, si je puis dire, mais c'est aussi mettre la paix là où je vis, là où je peux mettre la paix dans les cœurs. Alors il dit un deuxième signe de paix. Alors il a rappelé il y a quelques semaines à Ajaccio, un peuple qui espère, c'est un peuple qui a des enfants. À Ajaccio, il l'avait dit de manière un peu spontanée, il a été applaudi. À Ajaccio, il avait dit « Occupez-vous des personnes âgées et ayez des enfants ». Avoir des enfants, c'est quand même se confier dans l'avenir. Vous voyez, c'est un signe d'espérance, parce que c'est dire, mais au fond, il est bien que des enfants vivent dans le monde à venir. Quand on n'a plus d'enfants par peur, par exemple, de l'état de la création, de l'état de la nature, c'est terrible. C'est terrible de dire, moi, je ne veux pas avoir d'enfant parce que je ne veux pas que mon enfant naisse dans ce monde-là, bon, oui, comme si ce monde était juste horrible. Mais non, quand même, notre monde est beau. Hein, et du coup, on se retrousse les manches, on fait tout ce qu'on peut. Mais ayons des enfants, d'abord parce que nous croyons en l'avenir, et que si on n'a plus d'enfants, il n'y a plus d'avenir de l'humanité. Et puis ensuite, c'est parce que on va leur remettre... le monde le meilleur possible entre leurs mains. Et puis, on croit dans leur capacité à poursuivre l'œuvre qui a été transmise.
Voilà. Et c'est la force de vie. Hein. Un enfant, c'est bon, un tout petit bébé, comme on a eu à Noël l'enfant Jésus, c'est une merveille.
Et oui,
c'est un émerveillement.
On a besoin aussi, c'est vrai, nous les adultes, vous avez raison, on a besoin de l'émerveillement de l'enfant, de la simplicité de l'enfant, de la transparence de l'enfant, et puis de fait de l'enfant aussi qui nous remet en cause à l'adolescence, qui rue dans les brancards.
Mais, les parents en savent quelque chose.
Oui, qui nous renvoient à nous-mêmes, qui nous posent des questions, mais qui nous font avancer finalement.
Tout à fait.
Et puis alors, le pape parle des prisonniers aussi, il réclame la clémence pour les prisonniers. Alors, c'est le thème de l'amnistie, hein, du chapitre 5 du Lévitique. Là ensuite, évidemment, le pape ne demande pas qu'on ouvre les portes des prisons demain matin, ce qui serait un peu irréaliste. Mais il dit, réfléchissons aussi à la question des prisonniers. Moi, j'ai été à la prison de Nîmes célébrer la messe là, le 23 décembre. Et évidemment, on ne peut pas rester indifférent au sort des prisonniers, même si, évidemment, on reconnaît que s'ils sont en prison, c'est qu'il y a des raisons pour qu'ils y soient. Il y a aussi peut-être des pays où les gens sont emprisonnés pour...
Pour
leur foi, pour des questions idéologiques. Et la prison pour eux, c'est véritablement une injustice. Je crois qu'il faut écouter le pape. Il parle au monde, hein, il ne parle pas seulement à la France, hein, il parle au monde. Mais alors, il parle des malades aussi. Hein, comment est-ce que nous visitons les malades? Il parle des jeunes. Il parle des migrants, bon, c'est une thématique sur laquelle il insiste beaucoup. Des personnes âgées, des gens qui ont faim. C'est pas, comme je le disais, une liste exhaustive, mais comment est-ce que dans nos paroisses, et ça, je le demande aux prêtres, aux équipes d'animation pastorale, de poser des signes d'espérance, hein. Déjà, vous voyez, de bénir les enfants, de mettre en relief leur présence.
D'adapter aussi peut-être certaines messes, comme font certaines paroisses, un temps de la liturgie.
Voilà, il peut y avoir...
ces bambins dans les rangs des églises.
Voilà,
hein,
il faut, voilà, exactement. Mais vous voyez, la visite des malades, le soin des jeunes, le soin des migrants qui sont là à nos portes, la visite aux personnes âgées, penser aux personnes qui ont faim, bah, tout ça, vous me direz, on le fait déjà. Oui, mais ça peut être, pendant le jubilé, un moment de le refaire à frais nouveaux, ou bien de se dire, bah tiens, en fait, dans notre paroisse, on ne s'occupe pas beaucoup des malades, ou bien on externalise. Alors, il y a deux, trois personnes qui le font. Bon, c'est leur rôle, on sait. Mais nous, on ne s'y intéresse pas tellement. Donc, voilà, ça peut être une manière de renouveler aussi notre approche vis-à-vis de ces catégories de personnes, si je puis dire. Et puis aussi de se dire, bah voilà, comment est-ce que nous, les chrétiens, nous, dans les paroisses, on porte ces signes d'espérance pour notre monde.
Pour terminer cette émission, nous allons parler aussi des différentes initiatives dans le diocèse, les projets 2025, une très belle année jubilaire. Comment allons-nous vivre ce jubilé dans le diocèse? Il y a différentes initiatives et des projets qu'on va aborder maintenant.
Oui, alors il y aura, outre ce que les paroisses pourront organiser, parce que un diocèse, ce sont d'abord des paroisses, hein, sur le terrain, qui s'organisent pour vivre ce jubilé. Il y aura en particulier quatre temps forts. d'abord un pèlerinage provincial de la province de Montpellier à Rome au mois de février, du 21 au 26, si je ne m'abuse. En tout cas, le service de diocésain des pèlerinages l'organise. Donc avec Montpellier, Mende, Carcassonne et Perpignan.
Donc plusieurs diocèses
plusieurs
ensemble.
On sera 250.
Pour les adultes.
Adultes ou famille, en tout cas, on sera 250 à Rome. Mmh. Voilà. Et puis, il y aura trois autres temps forts. D'abord, le pèlerinage à Lourdes, au mois de juillet, aura pour thème, justement, l'espérance des soi pas. Donc, c'est une manière aussi de vivre à Lourdes ce temps jubilaire.
En communion avec Rome.
Voilà. Mmh. Proposons aux jeunes de partir au jubilé des jeunes à Rome, du 28 juillet au 4 août. Donc à Rome, pendant toute l'année, il y aura des jubilés des diacres, jubilés des prisonniers, jubilés des évêques, des prêtres, du renouveau charismatique, etc. Ou jubilés des professionnels de santé, enfin bon, tout au long de l'année. Et puis il y a un jubilé des jeunes, donc fin juillet, début août, et nous partirons avec 150 jeunes du diocèse, avec une dizaine de prêtres aussi, pour que dans tout le diocèse, il y ait des jeunes de toutes les paroisses qui viennent et puis qu'on vive ce moment ensemble, ce moment de conversion et puis de ressourcement là au cœur de l'Église. On proposera aussi une marche diocésaine, donc un pèlerinage diocésain à Saint-Gilles le 30 août. Alors là, l'idée, c'est que tous ceux qui veulent fassent la marche qu'il a envie de faire. Mmh. Pour se retrouver à Saint-Gilles le 30 août, vers 17h30 ou 18h à la Porte des Maréchaux. Alors ça, c'est le pèlerinage de Saint-Gilles. Il a lieu chaque année parce que Saint-Gilles, c'est le 1er septembre. Et là, le samedi 30 août, nous proposons à tous ceux qui veulent de se mettre en marche. Alors, il y aura une petite coordination diocésaine, mais au fond, il faut que chacun trouve son itinéraire. On fournira un livret, on vous fournira, disons, des axes de réflexion, des chants, mais il y a ceux qui vont se lever à 5h du matin et qui marcheront toute la journée, ceux qui marcheront 2h, ceux qui marcheront 4h, en fonction de là où il habite. Alors, ça peut être une paroisse, ça peut être une famille, ça peut être des cousins, ça peut être une équipe Notre-Dame, ça peut être une équipe d'ACI, ça peut être tout simplement des catéchistes qui veulent partir ensemble avec les enfants. Ça peut être un petit groupe de jeunes. Tous ceux qui veulent convergeront vers Saint-Gilles pour cette marche jubilaire. Vous savez qu'il y a un chemin de Saint-Jacques qui traverse notre diocèse et qui part de Pont-Saint-Esprit et qui va à Saint-Gilles. Et quelqu'un de notre diocèse a fait un petit livret avec l'itinéraire. Et donc, on peut partir de Pont-Saint-Esprit et aller jusqu'à Saint-Gilles en passant par Nîmes. Donc, on a déjà, si vous voulez, les cartes d'état-major. Et donc, ça sera à la disposition de chacun pour avoir un itinéraire de marche. Voilà.
Très bien. Donc là, on aura plus d'informations dans l'année sur ce projet. Donc, finalement, le jubilé dans le Gard.
Dans le Gard, exactement.
Et puis, pour les jeunes à Rome, l'objectif, j'imagine aussi, c'est de développer une dynamique, peut-être pastorale, pour les jeunes, qu'ils puissent vivre quelque chose de fort aussi. Parce que les jeunes, vous l'avez dit, comme le dit le pape aussi, les enfants, c'est l'avenir, c'est le présent et c'est l'avenir. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi besoin, les jeunes ont besoin aussi de ces temps forts.
Oui, signe d'espérance. Et moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait vraiment des jeunes de tous les ensembles paroissiaux qui soient là, qui représentent tout le Gard. Et ensuite, qui, fort de cette expérience, vous voyez, soit là comme un noyau dynamique pour faire vivre aussi l'ensemble paroissial.
Alors, pour terminer cette émission, un mot, peut-être, vos voeux en 2025, qu'est-ce que vous souhaitez aux Gardois ?
Écoutez, moi, aux Gardois, j'aimerais leur laisser comme viatique, si je puis dire, pour marcher tout au long de cette année, ce thème du jubilé, l'espérance ne déçoit pas. Voilà, je dis à tous les auditeurs, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre histoire, quelle que soit la vie que nous menons, il y a une espérance. C'est le Christ qui est mort, ressuscité, qui est monté au ciel, qui nous attire à lui et qui veut nous donner son salut. Vivons de cette espérance tout au long de cette année. Et puis que le Seigneur bénisse chacun et chacune.
Merci, Monseigneur.
Merci, bonne année
à tous. Bonne année.